Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Saviez-vous que seulement 29% des effectifs du numérique en France étaient des femmes ? Ada Tech School, que j'ai le plaisir d'accueillir comme sponsor de cet épisode, s'est engagée à changer cette réalité. Inspirée par Ada Lovelace, qui est la pionnière de la programmation informatique, cette école féministe et inclusive offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance pour devenir développeur ou développeuse, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur vraiment porteur, où votre contribution peut façonner l'avenir, Ada Tech School vous attend. L'école est à Paris, mais aussi à Lyon et à Nantes, et il y a 3 rentrées par an. Et la prochaine rentrée, les amis, est le 27 mai 2024. Il reste encore quelques places, alors pour candidater, rendez-vous vite dès maintenant sur le site adatechschool.fr. Bienvenue dans le best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue pour une nouvelle série Santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est aussi expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative, plus à l'écoute des patients, et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best-sellers tels que « Se soigner toute l'année au naturel » aux éditions Pratt. Alors dans ce premier épisode, nous aborderons les bons réflexes à avoir pour lutter contre les allergies de saison et bien entendu les autres, on pense à l'asthme, à l'eczéma, etc. Bonjour et bienvenue au docteur Jean-Christophe Charrier dans cette série Métamorphose. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Bonjour à toutes et à tous. Alors Jean-Christophe Charrier, je rappelle que vous êtes président de l'Institut d'endobiogénie que vous avez cofondé, c'est ça, il y a quelques années ?
Oui, enfin ça, il a 5 ans maintenant, on rentre dans la 5e année.
Oui.
Donc c'est un organisme dont la mission première est de gérer la formation pour les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes, tous les métiers de prescription. Et nous avons ouvert la formation maintenant aux paramédicaux et même une formation bien-être pour les professions qui ont attrait au bien-être de l'humain sans être forcément des soignants.
Oui, ben ça c'est formidable. Et puis en ces temps de pandémie, effectivement, on en a bien besoin. Alors cette première question sur les allergies, on va parler de l'asthme, de l'eczéma aussi, évidemment du rhume des foins. Alors selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'allergie est la 4e maladie chronique mondiale. Et les allergies respiratoires sont au premier rang des maladies chroniques de l'enfant. Est-ce que vous observez dans votre pratique que c'est en augmentation ?
L'allergie est très présente effectivement dans notre société. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a les facteurs naturels tels que les pollens, les poussières, les acariens. Mais il y a aussi beaucoup la pollution qui rentre en jeu. Mais à mon avis, je pense que c'est la façon dont on a modifié notre alimentation qui contribue beaucoup à fragiliser nos terrains à cette dynamique.
Alors l'alimentation, qu'est-ce qui a changé fondamentalement ? Plus de blé, plus de laitage ou trop aussi en nourriture ?
Alors bien sûr ça rentre en jeu, mais je pense qu'on est beaucoup plus sur l'industrialisation de l'alimentation. Et ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis installé, que commence à dater un peu. Et je me souviens, l'année où je me suis installé, il y a eu une grande étude qui avait été faite en Suède et qui avait comparé la population suédoise avec leurs cousins de l'autre côté de la mer Adriatique, si je ne me trompe pas, qui en fait la grosse différence, c'est des ethnies qui sont similaires. Et la grosse différence, c'est qu'il y a eu la guerre froide. Et donc, une évolution culturelle alimentaire totalement différente. Donc, sachant que du côté de l'Est, on est resté sur, sur une alimentation traditionnelle, ancestrale. Mmh. Ils n'avaient pas de frigo, ils ne faisaient pas la congélation, il n'y avait pas toute l'alimentation industrielle. Alors qu'en Suède, ben, ça s'est modernisé, ils mangent comme nous, les Suédois. Donc, beaucoup de plats préparés de façon industrielle, beaucoup de cette alimentation-là qui est déjà... De fait, une alimentation, on va dire, hygiéniste aussi.
Oui.
Hein, parce qu'on a toujours peur des maladies. C'est vrai que c'est une conserve mal préparée, c'est du botulisme, c'est des maladies comme ça qui sont mortelles. Donc, il se trouve que notre alimentation moderne, en fait, est une alimentation qui a perdu la vie. C'est une alimentation qui est totalement morte et qu'on met dedans des conservateurs, qu'on met des antioxydants, qu'on met des choses comme ça et qu'on perd, en fait, des ferments qui viennent normalement ensemencer notre microbiote. Et ces dernières années, là, on commence à s'intéresser beaucoup au microbiote. Il a un rôle vraiment important dans la gestion de l'allergie, entre autres. Ce n'est pas le seul élément, hein, parce que c'est vraiment multifactoriel. Mais je pense qu'une des augmentations de cette pathologie dans notre patientèle tient certes à la pollution qui est de pire en pire, on va dire, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup à la qualité de l'alimentation que nous avons.
C'est vrai qu'on voit aussi de plus en plus de tout petits qui ont des allergies. Moi, j'ai fait partie de ces mamans qui avaient un nouveau-né très allergique. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant quand on est jeune parent et qu'on voit déjà des allergies chez les enfants. Est-ce que ça aussi, c'est en augmentation? Est-ce que c'est lié au terrain du parent? J'imagine bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de génétique, mais aussi l'environnement là à nouveau?
Alors, je pense que c'est très, très lié aussi. Il y a aussi une chose qui a beaucoup changé, c'est la durée de l'allaitement. Alors certes, dans les années 70, on n'allaitait plus du tout, hein, puisque même les puéricultrices, les vieilles puéricultrices ne savent même plus enseigner les petites astuces pour l'allaitement chez nos jeunes puères qui sont très motivés. Donc, il y a vraiment une révolution féministe qui a été quand même assez, à mon avis, désastreuse par rapport à l'allaitement. Parce que à cette époque-là, on faisait tout, surtout pour que la femme n'allaite pas, pour la libérer. Et on comprend qu'il y a eu un débat à faire et un combat à mener là-dessus. Mais la conséquence, c'est que l'allaitement, c'est quand même le premier aliment de l'enfant et que physiologiquement, il est fait pour accompagner l'enfant pendant ses deux premières années. Donc aujourd'hui, quand une femme commence à allaiter plus de 3 mois, on considère qu'elle commence à avoir un problème relationnel avec son enfant et qu'elle est trop fusionnelle. Or, il ne faut pas oublier que la nature, c'est quand même 2 ans minimum d'allaitement. Donc notre société a beaucoup évolué là-dessus avec des mœurs qui se sont peut-être libérées, mais maintenant quand une femme allaite dans un parc, ça devient un scandale et ça c'est surprenant. Donc on a sexualisé le sein et on voit cet organe comme un organe sexuel, c'est avant tout l'organe du nourrisson, c'est la maternité, en fait c'est tout ce qu'il y a de la beauté qu'on peut avoir dans l'humanité de ce geste. Et ce n'est pas qu'un geste, c'est vraiment une nécessité. Quand on étudie le composant du lait, on se rend compte qu'il évolue en fonction de l'âge de l'enfant et en fonction des besoins de l'enfant. C'est extraordinaire ce que la nature arrive à faire et que l'organisme de la maman arrive à compenser en fonction d'eux.
Et comme chez tous les mammifères d'ailleurs.
Comme chez les mammifères. Et c'est ce qui nous définit d'ailleurs en tant que mammifères. Mais j'ai eu la chance de soigner une jeune maman qui est d'origine lituanienne et qui a sa maman qui vit encore au pays. Donc, qui fait beaucoup d'allers-retours entre la France et la Lituanie. Et j'ai été surpris de voir tout le savoir qu'il y avait, qu'on n'apprend pas, nous, qu'on n'a jamais appris en médecine, mais par rapport au suivi de ce lait, ils font des analyses du lait, ils disent aux mamans, il faut que vous améliorez votre alimentation sur tel type d'aliments pour que le bébé, il ait vraiment ce dont il a besoin. Et cette jeune femme avait assumé ses allaitements pendant 2 ans facilement.
Il peut y avoir des allergies qui sont liées justement à l'alimentation de la maman où le lait filtre quand même pas mal ce qui passe.
En fait, le lait apporte tous les anticorps, c'est une sorte de vaccination naturelle au quotidien en fait, pour le nouveau-né qui est immature dans son système de construction. Donc peut-être, mais je ne pense pas que ce soit la majorité l'allergie transmise par la maman. Je ne pense pas du tout, au contraire, la maman transmet un lait qui va plutôt renforcer l'organisme de cet enfant. Il ne faut pas oublier que l'enfant qui naît, il n'est pas fini. Il est loin d'être fini, puisqu'il nous faut 18 ans, 22 ans pour être fini, et après vivre sa vie d'adulte.
Oui, encore, on dit que le cerveau des ados, maintenant, va jusqu'à 25 ans,
voilà.
Je crois.
Mais oui, avec tous ces adolescents, comme
c'est
on dit
ça,
maintenant.
Ouais. Hein.
parce qu'il y a des nécessités de vie qui fait qu'avant, effectivement, à 12 ans, 14 ans, on pouvait être mis au travail. Moi, j'ai un arrière-grand-père qui, à 14 ans, était mis mousse sur un bateau. Il a traversé les océans. Aujourd'hui, on n'imagine pas que nos enfants de 14 ans puissent leur faire vivre des vies pareilles. Hein. Donc, effectivement, la maturité, elle vient aussi là-dessus. Mais au niveau de la physiologie, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs étapes dans la construction de l'enfant. Et que dans ces étapes, il faut répondre à des nécessités avec des outils qui ne sont pas perfectionnés puisqu'ils sont en cours de construction. Et c'est là que se conditionne vraiment l'avenir de l'adulte qui va venir, c'est la façon dont va se construire cet adulte en tant qu'enfant. Et c'est pour ça que déjà, si on peut commencer à arriver dans la vie par une naissance naturelle, c'est-à-dire en passant par la filière génitale, un accouchement naturel, il faut savoir que l'enfant commence à déglutir dans le vagin de sa maman et absorbe des bactéries qui vont commencer à faire le premier ensemencement de son tube digestif parce qu'il est stérile avant de naître l'enfant. Et par la première tétée, il va prendre des bactéries sur la peau du sein de la maman, puis il va avoir, avec le lait, avoir tous les éléments nécessaires pour équilibrer une flore digestive particulière qui va l'aider à bien fonctionner. Un enfant qui naît par césarienne, il lui manque déjà une étape. Et un enfant qui naît par césarienne et qui n'a pas été allaité, il lui manque également une deuxième étape. Ça, c'est des choses qui peuvent conditionner. Alors, heureusement, on a une certaine solidité qui fait que tous les enfants qui naissent par césarienne et qui n'ont pas été allaités ne sont pas allergiques.
Oui, et puis il ne faut pas faire peur ou culpabiliser certaines mamans qui ne peuvent pas.
L'idée n'est surtout pas de culpabiliser, on fait ce qu'on peut. C'était simplement de revenir que sociologiquement parlant, on a eu une période où les femmes ont eu besoin et elles ont eu raison de se battre et de s'émanciper. Mais parfois, il y a des extrêmes qui se mettent en place et on en oublie qui on est et d'où on vient aussi. Donc c'est important, on est des homo sapiens sapiens, nous sommes des mammifères et nous sommes dans ce sens là pour accompagner nos enfants longtemps, un peu plus longtemps maintenant, on va dire. Et donc la première étape, elle est là, elle est la naissance, c'est ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que ce temps-là est un temps qui conditionne beaucoup l'adulte qu'on va être. Et il faut savoir que de la première année de vie jusqu'à la septième année de vie, on va mettre en place tout notre système qui va réguler l'immunité. Et il faut bien voir l'allergie comme un excès de réponse. C'est une réponse qui va au-delà de la finalité. Donc c'est des gens qui ont une immunité qui fonctionne beaucoup trop. Et du coup, paf, on a une poussée d'allergie, alors que normalement, on ne devrait pas avoir de réaction de cet ordre-là.
Alors, on va y revenir aussi, puis voir la composante également émotionnelle. Quelle grande famille d'allergies on peut recenser aujourd'hui ?
Alors, il y a les allergies cutanées qui sont quand même très, très, très flagrantes et qui, au niveau du terrain, concernent un terrain qui n'est pas trop détérioré. Dès qu'on rentre en profondeur et qu'on a les allergies respiratoires, là, on est déjà sur un terrain qui est beaucoup plus dégradé. Donc ça, c'est déjà une chose importante. Il y a les allergies alimentaires qu'il ne faut pas oublier, qui sont plus souvent des intolérances que des allergies. Et puis, vous avez aussi des fausses allergies comme l'urticaire. L'urticaire, ça marche comme l'allergie, mais ce n'est pas une allergie. Si bien que vous avez des gens qui disent qu'on dit qu'ils sont allergiques à l'eau, parce qu'ils vont prendre une douche et ils ressortent rouges comme des écrevisses en train de se gratter partout. Ça, c'est l'urticaire aquagénique. Et en fait, c'est les contrastes de réactivité qui déclenchent une réaction comme une allergie, alors que ce n'est pas une allergie.
Quelqu'un qui, par exemple, s'est déjà fait piquer par une abeille ou une guêpe et qui n'a pas déclenché d'allergie et un jour, il a ce choc allergique, c'est dû à quoi, par exemple ?
Alors, en fait, dans les principes de l'allergique, en général, le premier contact ne crée pas une réaction. Il crée la sensibilisation. Donc, on a une première piqûre d'abeille et on n'a pas de réactivité. C'est à la deuxième piqûre d'abeille qu'on va avoir dans la reconnaissance. Notre système immunitaire, il a un système de mémoire. Il y a une immunité, on va pas rentrer trop dans le détail, ça devient très technique.
Répondre
à une agression, et là on est dans toutes les dynamiques d'adaptation qui est le propre du vivant, répondre à une agression nécessite de dépenser beaucoup d'énergie pour répondre à cette agression. Et notre organisme a cette capacité de garder en mémoire le mécanisme qu'il a mis en place pour répondre la première fois, si bien qu'il n'a plus besoin de réfléchir, entre guillemets, suite à une deuxième agression, parce que tout de suite, il sait comment faire et il va répondre immédiatement. Et dans le problème de l'allergie, c'est qu'on a une réponse qui, d'un seul coup, est excessive et qui va aller au-delà de sa finalité et avec des éléments qui vont augmenter l'œdème, c'est ce qu'on appelle l'œdème de Quinck, et qui va nous entraîner à un étouffement, voire la mort, parce qu'on a toutes nos muqueuses ORL qui gonflent et donc il n'y a plus d'air qui passe et donc on meurt en asphyxie.
Charmant. Au passage, on espère pas en arriver là et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont équipées d'épipènes et puis on verra aussi quelles solutions on peut trouver.
C'est important, c'est ce que, surtout les accidents qu'on arrive à voir actuellement, c'est surtout quand on est loin de tout le monde et qu'on est souvent en campagne et qu'on est en train de faire une activité sportive. Si vous faites piquer par une guêpe alors que vous êtes en train de vous souffler, que vous étiez en train de faire un footing, tout ça, n'oubliez pas que votre cœur il bat encore à fond et que là le poison du venin il va inonder brutalement le corps et si vous êtes allergique ça peut être catastrophique. Donc c'est dans les moments vraiment dans toutes ces situations on est un peu loin de tout qu'il faut avoir sa petite, pour les allergiques connus hein, mais qu'il faut avoir tout le matériel nécessaire pour agir tout de suite parce que là il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de mettre de l'adrénaline dans le corps qui va casser cette réactivité là.
Intéressant. Alors on parle aussi des allergies et on va voir les solutions évidemment, ça n'est que ceux qui nous écoutaient juste après. On parle aussi d'allergies qui mutent hein, dans le temps, enfin qui se transforment.
Oui.
On pense souvent à des enfants qui ont eu par exemple beaucoup d'eczéma petit et qui deviennent asthmatiques,
oui. Hein,
assez fréquent.
Ça c'est une dégradation du terrain, donc ça va pas mieux. Et donc quand on soigne de façon un peu artificielle un eczéma, on peut entraîner une dégradation du terrain. Alors qu'un asthme qui va se disparaître et se transformer en eczéma, ça c'est plutôt une amélioration du terrain, même si ça reste de l'allergie.
Oui.
Donc ça, il faut vraiment bien le voir, et parfois on est content parce qu'il n'y a plus du tout d'eczéma, puis on dit bah, il n'y a pas de chance, il a de l'asthme, en fait, c'est qu'on n'a pas bien travaillé. En fait. Et à masquer artificiellement les choses, parce qu'on a plein d'outils extrêmement puissants pour masquer les choses.
Et parfois, il faut soulager quand même.
Parce qu'il faut soulager, qu'on est dans le symptomatique et qu'on ne peut pas laisser les gens souffrir. Mais si on fait que du symptomatique extrêmement puissant, on ne va pas réparer la problématique. Alors qu'on peut avoir toute une démarche tout à fait autre, qui peut être symptomatique, peut-être un peu moins puissante ou moins répétée dans la puissance, mais d'emblée mettre en place un traitement réparateur qui va accompagner l'organisme dans ses défauts de fonctionnalité et venir étayer ces défauts pour l'aider à mieux fonctionner, à mieux s'auto-réparer et mieux s'auto-gérer.
Est-ce qu'il y aurait quelque chose, un remède un peu commun pour les terrains allergiques qui serait quand même bien un peu pour tout le monde ou c'est difficile de parler comme ça?
Alors en général, vous savez Anne que moi je prône une médecine qui est une médecine de l'individu, donc c'est toujours très difficile d'avoir un remède général, mais heureusement il en existe bien sûr. Et le problème, c'est que quand on rentre dans un remède général, on va avoir un remède qui est de façon symptomatique pour tout le monde. Alors moi, j'aime bien trouver un remède général qui est à la fois symptomatique, mais qui vient aussi régler une partie des désordres qu'on retrouve chez la plus grande partie des patients qui manifestent ce type de maladie. Donc, il y a une plante, il y a deux plantes que je trouve extraordinaires, mais il y en a une qui est particulièrement intéressante, c'est le plantain.
Oui.
Cette herbe à vache hein, qui traîne dans tous les champs, qu'on la trouve même dans les caniveaux, qu'on trouve même à Paris sur les trottoirs. C'est vraiment une plante commune. Il faut apprendre à la reconnaître. Il y a deux plantains, il y a le major et le lancéolé. Les deux sont aussi efficaces, donc on peut utiliser les deux. C'est vraiment une feuille très particulière, donc on l'a vu une fois, on le reconnaît toujours, le plantain. Et ça, ça peut dépanner vraiment. Moi, j'ai eu un neveu qui était en vacances avec nous, qui a fait beaucoup de piscine, qui s'est un peu irrité les yeux, qui il y a eu des pollens. Enfin bref, il avait, on imagine très bien son regard de tétard,
ouais,
là.
C'est ça.
Voilà. Et c'était en train de gâcher ses vacances. On était perdu au milieu de la campagne. C'était un été, on était perdu au milieu de la campagne. Il n'y avait rien. Et pour le soulager, ben, je lui ai dit, viens avec moi. Puis hop, on a été cueillir des feuilles de plantain, on a fait une infusion, j'ai fait des compresses, il s'est fait des bains d'yeux avec ça. Et ça l'a soulagé tout de suite.
Ouais, super. Voilà. Alors, y a pas de, on ne peut pas la confondre avec une autre plus toxique, il n'y a pas de risque.
Globalement. Alors moi, je ne suis pas botaniste, hein, Anne. Moi, je suis médecin et j'ai un gros défaut, c'est que je sais utiliser le pouvoir des plantes, on va dire, mais je ne sais pas toujours les reconnaître. Ça, c'est le travail du pharmacien. Et malheureusement, dans nos formations, le jour où les pharmaciens partaient en reconnaissance des plantes, nous, on allait en reconnaissance des signes cliniques. Donc, il me manque ce savoir-là, que je ferai peut-être à la retraite.
Très bien. Non, mais c'est bien de le signaler parce qu'il y a eu des accidents ces dernières années, effectivement, dans des stages comme ça de cueillette où après les gens ont cru reconnaître, ils n'étaient pas forcément bien formés.
Tout à fait.
Voilà, donc je fais juste.
Toujours être prudent.
Voilà, toujours être prudent. Et là, le cas du plantain que vous avez évoqué, c'était un cas un peu d'urgence et là, la plante était facile à reconnaître. Sinon, sous quelle forme, en fait, en cas de terrain allergique, on l'utilise? Qu'est-ce qu'on peut. Voilà, sous forme de teinture mère, en gémothérapie, comment est-ce qu'on l'utilise?
Oui, le mieux, c'est d'aller voir le pharmacien.
Oui.
De toute façon. Parce que le pharmacien, en France, il a le diplôme d'herboriste. Quand vous êtes dans d'autres pays où il y a des herboristes, il vaut mieux aller voir les herboristes parce qu'ils sont mieux formés à la reconnaissance de la plante. Mais la particularité franco-française, c'est d'avoir intégré le diplôme de l'herboristerie dans la pharmacie. Donc il n'y a que le pharmacien qui peut vous donner un vrai conseil de professionnel reconnu en France. Et il est le seul à pouvoir vous vendre les produits de la pharmacopée. Alors il y a des plantes libérées et des plantes non libérées. Donc les plantes libérées, c'est des plantes qui peuvent être considérées comme alimentaires. Donc ça, tout le monde peut les vendre et vous pouvez les trouver en boutique bio. Donc normalement, ça rentre dans un réseau où on est sûr d'acheter la plante qui est écrite sur le paquet, parce qu'on a ces problèmes. Donc moi, je vous invite à ne surtout pas commander sur Internet des plantes dont on ne sait pas d'où elles viennent. Mmh. Donc vous avez des bons marchands, on va dire, sur Internet, qui sont connus comme une bonne boutique bio du coin. Et puis vous avez des ventes, on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc allez toujours vous renseigner où se trouve le siège de
ouais,
votre lieu de commande,
fabrique,
ça c'est important. Mais ce plantain, on peut le trouver essentiellement en teinture mère ou en extrait fluide, ou alors sous des formes gélules, des choses comme ça. Mmh. Vous l'aurez pas en gémothérapie.
D'accord. On peut le prendre à partir de quel âge à peu près, ce plantain ?
Au premier âge.
Au premier âge,
ouais, sur
d'accord.
Une forme de petite tisane qu'on peut intégrer dans le biberon.
D'accord.
C'est-à-dire que moi, pour les enfants allergiques, je vais faire une tisane standard, hein, et on se sert de ce liquide pour faire le biberon.
Très bien. Mmh. Pour des adultes, quelle quantité, quand on a des crises comme ça, par exemple, ça peut être rhume des foins, après on y viendra pas spécifiquement, mais ou eczéma, on se prend comme ça des tisanes régulièrement ou en teinture mère?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on sent les premiers signes qui viennent, c'est bien d'emblée de ne pas attendre que la crise soit là pour traiter, mais de commencer d'emblée à prendre sa petite tisane qui peut aller d'une tasse par jour à un litre par jour.
D'accord. Ah oui, quand même.
Oui, ouais. Oui. Il ne faut pas hésiter, si on est sur une phase aiguë, un bon litre, voire un litre et demi, s'il faut.
Oui.
Non, c'est juste pour dire que si on a quelque chose qui est plus cutané, on pourra aussi privilégier la fleur de pensée sauvage, qui coûte plus cher à l'achat que le plantain, mais qui est beaucoup plus spécifique cutané.
Très bien.
Elle a une action de drainage de la peau. Ces plantes-là ont une activité de régulation de l'histamine, qui est le médiateur de l'allergie, en fait.
La pensée sauvage, sous quelle forme ?
Alors en tisane, beaucoup,
oui.
Et puis on la trouve aussi en teinture mère ou en extrait fluide.
D'accord, donc ça c'est bien. Pareil, premier âge aussi ou
plus... Ouais, en tisane, pour les premiers âges, on ne prendra que des tisanes, l'idée est la même. Une tisane, c'est quelque chose d'empirique, hein, de base, mais c'est extrêmement riche en principes actifs. Donc on met une pincée ou une boule à thé, on va dire, pour une tasse, et il faut surtout laisser infuser au moins 10 à 12 minutes. Mmh. Hein, une fleur, on peut s'arrêter à 10 minutes, mais... pour une feuille, il faut au moins aller jusqu'à 12 minutes. Si vous faites un mélange des deux, il faut que votre tisane dure 12 minutes. Mmh. Autrement, c'est une tisane d'agrément. Donc, vous avez les parfums, vous avez les odeurs, mais vous n'avez pas les principes actifs.
Oui, d'accord. On parle aussi souvent, et je le disais tout à l'heure, du lien entre les allergies et les émotions. Est-ce que vous en avez vu dans votre pratique, effectivement ?
Alors, en fait, quand on fait de l'endobiogénie, c'est tellement évident pour nous qu'on ne peut pas le dissocier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une des grosses problématiques de l'allergie, ça vient du fonctionnement de l'axe thyréotrope, donc l'axe endocrinien qui gère la thyroïde. Dans cet axe thyroïdien, beaucoup de nos auditeurs connaissent la TSH qu'on va doser pour régler le dosage de L-thyroxine, hein, qui est ce médicament qui nous régule la thyroïde pour ceux qui sont en hypothyroïdie. C'est assez connu dans la population. Je pense qu'autour de vous, vous aviez au moins une personne qui prend ce type de médicament.
Oui, ma maman.
Voilà. Donc, on pourra se poser des questions un jour sur un podcast que sur la thyroïde, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses
excellent
à dire
sujet.
Sur elle. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette TSH, qui est une hormone qui est produite par notre hypophyse et qui est un peu le chef d'orchestre du fonctionnement de notre thyroïde, qui fabriquait les hormones T4 et T3, qui sont les hormones thyroïdiennes. Cette TSH, elle a un chef au-dessus qui s'appelle la TRH, qui est donc hypothalamique. Et la TRH, elle a deux fonctions. Elle a une fonction d'être le chef de l'axe thyréotrope, mais elle a une fonction fondamentale par rapport à notre cortex, parce que c'est elle qui nourrit notre imaginaire. C'est elle qui va nous rendre créatifs, c'est elle qui va nous rendre anxieux, c'est elle qui va nous donner des rêves en couleur, construits, avec un scénario, tout ça, c'est grâce à votre TRH. Mmh. C'est elle qui peut vous amener à être un véritable artiste. Hein. Et c'est elle qui peut vous amener aussi à la folie. Mmh. Hein, et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup l'art-thérapie en psychiatrie. Et moi, j'aime bien citer l'exemple de Van Gogh. Hein. C'est cet homme-là qui a fait des peintures qui peuvent nous mettre en émotion assez forte. Quand il peignait pas, il était parti dans ses délires, voire à s'arracher une oreille, tout ça, parce qu'il y avait un besoin d'incarnation, on va dire aussi quelque part. Hein.
Oui.
Et tout ça, c'est lié à la TRH. Hein, donc c'est vraiment une hormone qui est explosive dans la gestion émotionnelle. Donc comme la thyroïde, c'est elle qui va gérer toute la régulation immunitaire.
Oui.
enfin la thyroïde, l'axe thyréotrope, là je suis un abus de langage, l'axe thyréotrope dans lequel le thymus appartient, qui est sous la dépendance de la thyroïde dans ses fonctionnements, bon, c'est, tout ça c'est du détail, mais je fais des petits abus de langage, excusez-moi. Mais cet axe thyréotrope gère, on va dire, une partie de ce qui va créer l'allergie, et que en fait, il y a la même hormone qui va nous aider à gérer toute la partie imaginaire, la psyché. C'est une évidence physiologique, en fait, qu'on soit très très liés l'un dans l'autre.
Donc du coup, il y a vraiment cette question à se poser quand il y a un terrain allergique, de se dire qu'est-ce que je peux aussi réguler au niveau émotionnel ? Qu'est-ce qui peut être fait à ce moment-là pour aider ?
Alors en fait, pour nous qui faisons de l'endobiogénie, tout est psychosomatique ou somatopsychique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les maladies psychosomatiques d'un côté et les autres maladies. Hein, nous sommes des êtres uniques et nous ne sommes pas un cerveau d'un côté et un corps de l'autre. Le cerveau, c'est un organe du corps. Et il fonctionne en interaction avec le corps, avec ses propres outils, ses propres drainages et ses propres digestions, on va dire. Oui. Quand on voit que la part psycho devient prédominante sur le soma, c'est plus ce rapport de force qu'il faut voir. Effectivement, là, il faut utiliser tout un tas d'outils qui peuvent tempérer ça. Alors, il y a des plantes qui sont intéressantes pour voir ça, mais on en parlera si on fait un podcast sur la thyroïde.
Oui.
Hein, et puis après, il y a toutes les méthodes de relaxation, de méditation, de prise de conscience de soi. Il y a le massage aussi qui permet aussi l'incarnation. Parce que quand on est dans une TRH forte, on est assez désincarné, on va dire.
Intéressant. En tout cas, alors pour poursuivre sur certaines allergies, est-ce qu'on peut aller sur des allergies bien répandues ? Évidemment, on pense au rhume des foins, enfin toutes les allergies de saison. Et là, voir des plantes qui seraient un petit peu plus adaptées à ce type d'allergie ?
Oui, alors quand on a le rhume des foins, on fait la fontaine en général.
Ouais. On les voit, ils ont les yeux du tétard que vous évoquiez aussi tout à l'heure.
Donc là, en complément avec le plantain qu'on utilisera, ce qui est intéressant, c'est de prendre des plantes qui vont essayer d'assécher un peu ces sécrétions. Et donc la meilleure des plantes, c'est la ronce. C'est aussi une plante très commune qui pousse un peu partout.
Qui est de chez nous.
Qui est de chez nous et dont on sait tous cueillir des murs. Donc, tous ceux qui savent cueillir les murs du roncier, il y a deux types de murs. Il y a les murs du mûrier, qui est sur un arbre.
Qui est sur un arbre.
Voilà. Et les ronces, c'est des buissons qui piquent beaucoup. Donc, quand on a su cueillir des murs, on sait reconnaître les ronces. Donc, la feuille de ronce qu'on peut utiliser en infusion va avoir un effet très décongestionnant de la sphère ORL et va limiter beaucoup ses écoulements. On peut y associer la pensée sauvage qui va aussi avoir ce rôle dans la régulation des drainages. Voilà, puis ce qu'il faut, c'est comme on est dans c'est un rhume des foins, donc on est dans une pathologie de la saison. Quand on a une pathologie liée à la saison, c'est qu'on a une difficulté d'adaptation dans la saison.
Ah, intéressant.
Voilà. Et dans nos rythmes physiologiques, l'adaptation dépend de deux axes endocriniens. La thyroïde, on en a parlé, et puis l'axe qui gère les surrénales. Alors la thyroïde, elle est très impactée dans les rythmes saisonniers. C'est l'adaptation dans le temps. Hein. Pour vous donner une idée, l'hormone T4, c'est l'hormone de la semaine, la T3, c'est l'hormone du jour, et la prohormone de ça, qui est une substance qu'on appelle la colloïde, c'est un stock pour un petit trimestre. Hein, donc on voit vraiment qu'il y a une inertie dans cette glande. Alors que la surrénale, c'est l'adaptation dans l'immédiateté, c'est la survie dans l'instant. Donc c'est l'adrénaline, c'est le cortisol, c'est l'aldostérone, c'est toutes ces hormones qui nous permettent de répondre immédiatement par rapport à un agresseur.
C'est quoi, c'est le parasympathique là ?
Non, alors là, on est en plein dans le bêta-sympathique.
Bêta-sympathique, raté. Le bêta-sympathique.
Ah oui, l'adrénaline, c'est le bêta, c'est vraiment tout ce qui est la réalisation d'action. Et donc, sur un rhume des foins, on a une difficulté d'adaptation saisonnière, un agresseur qui vient manifester, mettre en exergue cette difficulté, et donc une sursollicitation de l'adaptation immédiate. Donc on a une conjonction des deux éléments. Il suffit qu'un des deux marche bien et on n'a pas de rhume des foins.
Oui. Et puis qui peut aussi donner de l'asthme à un moment donné, qui n'est pas de manière chronique, mais de manière justement
ponctuelle,
épisodique. Oui.
Alors là, on peut soutenir la thyroïde avec de l'avoine, par exemple.
Oui.
Faire des porridges d'avoine, déjà au niveau alimentaire, dans du lait et d'avoine. On va optimiser le porridge. On évitera un lait animal, parce que ça, on risque de surcharger le travail du pancréas, et on va augmenter le côté fontaine au niveau ORL. On pourra un jour parler du pancréas aussi.
Oui. D'ailleurs, on en a pas mal parlé du pancréas dans notre épisode de la première série où on a parlé de l'immunité.
C'est vrai.
Et de l'avoine et du porridge. D'ailleurs, je le fais depuis.
Voilà.
Par cure, comme ça.
Hein. Très bien.
Vous aviez dit pas forcément tout au long de l'année.
Juste ponctuellement, quand on sent qu'on est dans ces fragilités d'adaptation saisonnière. Et puis, il faut fortement soutenir notre surrénale de ce côté-là. Et là, on retrouve le couple courant pour nous et que je donne souvent, qui est le cassis et l'églantier, deux plantes qui marchent très très bien ensemble et qu'on va utiliser en gémothérapie.
D'accord, là c'est de la gémothérapie. Alors la gémothérapie, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sont les bourgeons. Hein.
Oui, ce sont des bourgeons ou des jeunes pousses. Mmh. Donc c'est du tissu jeune de la plante qui contient, qui a un grand intérêt, c'est que dans la cueillette de cette plante en devenir, on va dire, il y a en fait tous les principes actifs de la plante.
Oui, intéressant.
Alors on a la tige, on a la feuille, on a les fruits potentiellement qui sont dans le bourgeon. Donc c'est un totem qui est très très intéressant. Et qu'on utilise beaucoup. Moi, je peux vous assurer qu'au niveau clinique, le cassis en gémothérapie est beaucoup plus performant que la feuille de cassis qu'on va utiliser en teinture mère.
Intéressant. Et en plus, la galénique est vraiment facile à prendre. Hein, c'est quelques gouttes.
Alors, ça dépend. Parce qu'en gémothérapie, on a la gémothérapie mère, là, qui est très concentrée. Donc, ça peut être 5 gouttes seulement, voire 10 gouttes. Et sur une phase très, très aiguë, ponctuellement, c'est 20 gouttes, mais sur une journée. Mais vous avez aussi la gémothérapie qui est en macérat glycériné première dilution décimale, D1.
D'accord.
Donc là, on multiplie par 10. Donc ça peut être de 50 gouttes à 200 gouttes.
Et là, ça peut être pris plus pendant la phase du rhume des foins sur, par exemple, deux mois, ou pas forcément ?
Non, sur la phase de fragilité,
oui.
Même en prévention. Donc en prévention, on peut prendre, si on est en macérat mère, hein, on a longtemps prescrit du D1 parce qu'il était remboursé maintenant.
En teinture mère,
on nous a tous déremboursé. Mais en macérat mère, pas en teinture mère.
Ah, en macérat mère, oui.
Donc non dilué. Et essayer de s'assurer que les bourgeons n'ont pas été congelés avant d'être mis en macérat. Donc c'est écrit chez certains producteurs.
D'accord.
C'est bien mieux. En macérat mère, on peut prendre 5 gouttes du mélange à partie égale de cassis et d'églantier, ce qui vous fait 2,5 gouttes de chaque. C'est vraiment pas beaucoup.
Non. Voilà. La demi-goutte, il faut aller la chercher.
Voilà.
Ouais.
C'est pour ça autant mélanger les deux. Puis hop. Là, on fait 5 gouttes en prévention, dès qu'on sait qu'on rentre dans la période de fragilité. Et comment on sait quand on rentre dans la période de fragilité? Déjà, il y a la mémoire de l'année d'avant, mais surtout la mémoire de ce qui se passe dans le climat autour de vous. Ce n'est pas la date du calendrier qui est importante.
Est-ce qu'il fait chaud d'un coup?
Voilà. Ce changement important, et puis s'assurer éventuellement, si on est très très sensible, il y a des cartographies qui sont faites par le ministère de la Santé, qui nous alertent que là, il y a une alerte pollen, et quand on sait qu'on est allergique à ce pollen-là, parce qu'on a été testé à lui, donc quand on voit que l'alerte commence à monter, on peut se mettre en prévention, et on va commencer à 5 gouttes, et puis quand on sent que malgré tout, ça commence à venir, et on monte la posologie, et de 5 gouttes par jour du mélange des deux, on peut passer facilement à 20 gouttes du mélange, 3 fois par jour.
Bon, et alors là, si on résume, on ferait donc un peu de tisane plantain, pourquoi pas un peu de pensée sauvage pour les sécrétions. Ensuite,
La ronce.
La ronce, hein, on a dit, pour assécher encore plus. Et puis, en macérat mère, là, comme vous venez de le dire.
Voilà. Cassis et églantier en accompagnement.
Donc là, en principe, si on fait ça, on va déjà sentir qu'on passe la période de rhume des foins, enfin de crise d'allergie au pollen beaucoup plus facilement.
Plus facilement. On peut aussi mettre, si on est dans des formes qui sont un peu plus frustres, on peut rester sur des fruits rouges. Donc on peut se mettre à consommer sous forme de jus, c'est le plus pratique, hein, parce que les fruits rouges, la récolte elle est quand même très courte. Mais on peut consommer des jus de fruits rouges dans ces périodes-là, plutôt que de rester sur le sacro-saint jus d'orange, qu'on devrait virer du petit déjeuner, mais ça c'est un autre sujet.
Oui.
On peut prendre des fruits rouges justement dans toute cette période, l'intégrer dans notre alimentation forcée. Et déjà avec ces fruits-là, on a une activité de soutien des surrénales qui est assez importante.
Ouais, c'est bien en complément, c'est parfait.
Il y a des sirops d'argousier, des jus d'argousier qu'on peut trouver. On évite les sirops parce que dans les sirops, il y a du sucre. Donc il ne faut surtout pas rajouter du sucre qui vient augmenter l'état congestif. Mais des jus d'argousier, par exemple, qui est pas très bon, mais qui est très performant, c'est très très bienvenu.
Parfait. Si on a une crise d'asthme par-dessus le marché avec l'allergie, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou ça devrait bien aider?
Alors si on a une crise d'asthme, on appelle le médecin parce que ça peut être dangereux.
Oui, bien sûr. Non, mais je ne disais pas ça dans ce sens. Hein. Ouais.
Et par contre,
c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même souvent taulines en France. Ouais.
Donc il faut être attentif à ça. Si on n'arrive pas à gérer la crise, il faut vraiment appeler le médecin. Mais pour la prévenir, cette crise, on peut utiliser deux autres plantes. Une qui va travailler beaucoup sur le bêta sympathique comme la cannelle. Qu'on peut intégrer dans des tisanes ou dans l'alimentation, sur les salades de fruits, des choses comme ça. Et puis le cyprès. Le cyprès, c'est vraiment la plante que je prescris très couramment chez mes asthmatiques, qui a une activité très protectrice du fonctionnement de nos poumons. Et en même temps, ça améliore la circulation des jambes.
Sous quelle forme, le cyprès ?
En huile essentielle.
D'accord.
Le plus souvent, on peut l'utiliser en teinture mère, mais là, je pense quand on... L'avantage des huiles essentielles, alors là, mais là, c'est le médecin qui parle dans une prescription.
Oui.
Là, je ne vais pas rentrer dans du conseil, parce que là, c'est des huiles essentielles qu'on va prescrire par voie orale. Et pour ça, il faut une préparation magistrale que le médecin est seul à même à vous fournir.
D'accord.
Mais déjà, si vous pouvez l'utiliser en olfactothérapie, c'est-à-dire
sur
en
les poignets.
Respirant, hein, et donc en mettant votre huile essentielle de cyprès et en venant la respirer, la cannelle peut être très dermocaustique.
Oui.
Hein, donc la cannelle, on va éviter quand même de la respirer, tout ça. Donc autant l'utiliser sous forme d'infusion avec des bâtons de cannelle qu'on laisse infuser avec la tisane.
Combien de temps ?
C'est un bois, alors là, c'est au moins 12 minutes.
Ah ouais, on revient sur nos 12 minutes dont on parlait en antenne.
Et comme c'est du bois, autant le mettre dans l'eau froide, le porter à ébullition, et quand ça commence à frémir, on éteint, on rajoute les autres plantes et on laisse le tout infuser 12 minutes.
Est-ce qu'on a un peu fait le tour ou est-ce que vous voyez d'autres? On a dit que c'était une série avec des formats courts pour chaque sujet, mais comme on est passionné, on part à chaque fois à fond sur notre sujet.
Oui, parce qu'il y a le confort de la peau quand même qu'il faut gérer. Il y a quelque chose de très très simple à faire.
En crème?
Non. Encore mieux, il faut avoir une baignoire. Mais c'est d'acheter de l'amidon de blé chez le pharmacien. Ça ne coûte pas cher du tout. Et vous faites un bain en mettant une poignée d'amidon de blé dans votre bain. Et là, vous allez avoir une vraie peau de bébé toute douce.
Ah, génial. Donc ça, quand on a une crise d'eczéma, on peut faire ça ?
Oui. Alors après, pour ceux qui n'ont pas de baignoire, il y a des savons à base d'avoine, par exemple, qui font très bien ce jeu-là. On évitera les vrais savons. On utilisera des faux savons qu'on appelle des syndettes, en fait. Et qui sont faits soit des surgras, soit mais à base d'avoine, ça existe et c'est très très utile.
Très bien. Sur la peau, pour l'eczéma, est-ce que vous voyez autre chose peut-être à rajouter une plante?
Faites attention sur la peau, parce que si vous avez un terrain à eczéma, n'allez pas mettre n'importe quoi, parce que vous pouvez faire flamber votre terrain.
Oui.
Et n'allez pas vous badigeonner les lésions avec des huiles essentielles, parce que là, ça peut être une catastrophe. Par contre, comme vous avez fait une infusion avec des plantes pour lutter contre l'allergie, et que vous avez une plaque qui peut être un peu trop gênante et qui peut être suintante, tout ça, mais votre plante que vous avez utilisée pour l'infusion, une fois que l'infusion est faite, au lieu de les jeter, vous les prenez, vous les mettez dans une petite compresse, et vous venez l'appliquer en cataplasme sur la plaque d'eczéma qui vous gêne le plus. Vous allez voir, ça va vous soulager.
Intéressant. Ce que je voulais dire tout à l'heure sur les huiles essentielles, c'est effectivement, on rappelle des mises en garde, hein, pas aux femmes enceintes, la cannelle, etc.
Pas
aux enfants, oui. Il y a quand même des contre-indications.
L'huile essentielle est un outil de phytothérapie extrêmement puissant,
oui.
Et qui est beaucoup utilisé en automédication parce qu'il donne du résultat rapide. Je pense que il faut être très très attentif parce que, à mon avis, c'est un outil qui doit être gardé sur conseil d'un professionnel.
Oui.
Toujours.
Toujours. Sur l'eczéma, pour calmer peut-être les angoisses, il y a beaucoup de gens qui relatent quand même qu'ils font des crises d'eczéma suite à du stress, etc. Est-ce que là, on pourrait donner quelque chose qui apaise un peu l'anxiété ou le côté stress en général?
Ouais. Déjà, vous avez le gésémium en homéopathie qui marche très très bien là-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter si vous êtes sensible à ça. Vous avez la lavande qui est une plante qui va apaiser justement toute la réactivité neurovégétative.
Sous quelle forme?
Alors là, il y en a tout ce qu'on veut.
Ah oui. Donc, tisane.
Voilà, tisane, teinture mère, huile essentielle, gélules, toutes ces choses-là. On peut, si vous êtes un stressé chronique et que vous manifestez des signes d'inconfort digestif, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des allergies digestives, mais là, on a souvent des surconsommations de sérotonine localement. Des plantes comme la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui permet d'avoir la bonne humeur. Mais qui est très très consommée dans le ventre. Et quand elle est beaucoup consommée dans le ventre, on manque de précurseurs pour la fabriquer dans notre cerveau.
Ouais, on pense au griffonia par exemple.
Je pensais au griffonia ou au safran par exemple, qui sont deux plantes, ou la synergie des deux, qui sont des plantes qui peuvent nous accompagner sur des stress chroniques, justement pour pas qu'on sombre vers la dépression et qu'on reste en surface de ça.
On pense aussi à une autre plante, je ne sais pas si elle est indiquée, mais je pense à la maca. Est-ce que ça peut être...
Alors la maca, honnêtement, Anne, c'est une plante que je n'ai pas travaillée, que je n'utilise pas.
Bon, elle n'est pas de chez nous non plus, donc
peut-être.
Il faut peut-être aussi l'éviter.
Voilà. Mais en même temps, je ne connais pas toutes les plantes, j'ai encore toute une vie pour continuer à prendre du savoir. Et c'est vrai qu'on en parle un peu de la maca, donc c'est une plante sur laquelle il faudrait que je me penche.
Merci. Est-ce que vous voyez autre chose à dire? C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup des allergies alimentaires, et Dieu sait si elles sont de plus en plus répandues, notamment chez les jeunes, chez les enfants.
Je pense que lorsqu'on est dans les... allergie alimentaire. Alors, dans l'introduction, on a expliqué hein, tous les principes de cette allergie alimentaire. Hein. Le microbiote, il est vraiment dans l'interface de tout ça. Il y a les farines de blé modernes qui sont très, qui aggravent beaucoup toute cette problématique. Il y a surtout le manque, enfin, le fait de manger une alimentation qui est morte.
Oui.
Donc, revenez sur des choses fermentées. Buvez du kéfir. Les enfants, ils adorent le kéfir de fruits. Donc, arrêtez de leur acheter des boissons, j'allais dire des marques, mais arrêtez d'acheter des sodas extrêmement sucrés et pas bons pour la santé. Mais faites-leur du kéfir et je peux vous assurer que les gamins, ils vont vous en réclamer. Mmh. Tellement c'est bon, c'est facile à faire. Et puis, il y a les fromages, je veux dire, il y a des fromages qui sont vivants, qui sont en pleine fermentation, les roquefort, les choses comme ça. Après, il faut aimer le goût, hein, mais vous en avez d'autres aussi. Évitez d'avoir que des pâtes cuites, parce que les pâtes cuites, c'est du fromage mort, c'est pareil, il n'y a pas de bactéries dedans. Manger de la choucroute, c'est quand même assez facile à trouver.
Oui.
L'hiver, ça fait du bien, une petite choucroute. Et puis
donc, pour les enfants, c'est pas, c'est parfois au niveau du goût, ça peut être un peu fort.
Après, c'est à la cuisinière d'améliorer les choses aussi. Et puis,
ou au cuisinier.
Ou au cuisinier, oui, tout à fait. Oui.
À celui qui cuisine.
Voilà,
on va
celui
dire.
Qui cuisine. Et puis faites plutôt une choucroute au poisson qu'une choucroute avec plein de charcuterie.
Oui.
C'est une choucroute au poisson, là, ça va être très bon pour votre santé, ça va éviter de vous recongestionner. Si vous êtes malade, si vous prenez une choucroute avec de la charcuterie, vous allez faire plomber votre pancréas et vous allez augmenter l'état congestif. Donc, au poisson, manger de la cuisine simple, c'est quand on est dans un état de fragilité. La cuisine simple, c'est pas forcément simple à faire. C'est une cuisine simple dans ses process de cuisine, ce que je veux dire. Donc, du poisson vapeur, de la cuisson à basse température, avec des des vitaliseurs, là, c'est comme ça.
Oui.
Vous connaissez?
Oui, vitaliseurs de Marion Caprin,
voilà,
par exemple.
Hein, ouais. Tout ça, c'est des aliments qui sont faciles à digérer, qui vous apportent de la vie, surtout. Il nous faut de la vie dans ce que l'on mange. Les graines germées, c'est très très bienvenu, bien sûr.
Bon, mais c'est bien. Pour ces allergies alimentaires, est-ce qu'on peut les soigner, en guérir quand même sur la durée? D'ailleurs, comme toutes les allergies, c'est la même question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de désensibilisation des allergies.
Mm-hmm.
Beaucoup de gens aussi vont vers là. Est-ce qu'on peut donner aussi une forme d'espoir sans en passer par là, par d'autres méthodes?
Alors, si on fait une désensibilisation sans gérer le problème de fond, on y revient. Donc, la désensibilisation, c'est un outil qui peut effectivement nous aider à gérer des problématiques extrêmement violentes, on va dire. La première des choses à faire, c'est de comprendre qu'est-ce que l'on fait dans notre quotidien qui nous fragilise par rapport à ce terrain-là. Et en endobiogénie, on ne va pas avoir une activité anti-allergique, même si on l'est par les plantes que je vous ai dit, mais on a une réflexion qui va un peu, même beaucoup plus loin que ça. Et on va travailler beaucoup à diminuer la capacité de réactivité de l'organisme à la sollicitation de l'allergène.
Oui.
Ce qui est un peu différent et qui, additionné avec les outils extrêmement puissants que nous offre la médecine allopathique substitutive, peut entraîner des résultats extraordinaires. Et puis il y a des choses à faire avant certains âges, parce que quand vous rentrez dans la puberté et que vous avez été un enfant allergique et vous n'arrivez pas à gérer votre allergie avec la puberté, en général vous allez rester allergique toute votre vie. Alors qu'il y a beaucoup d'allergiques qui, au moment de l'arrivée de la puberté, ne sont plus allergiques pour le restant de leur vie. Et ça, on rentre dans les étapes de construction de l'individu dont on parlait tout à l'heure.
Ouais.
Et donc, ces étapes-là, il faut les accompagner quand on est fragilisé.
Vraiment intéressant. Vous voulez quelque chose à ajouter ou on s'arrête là? On a fait le tour, je pense.
Je pense que c'est bien pour ce sujet-là.
On a dépassé notre temps. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. Alors,
merci,
on peut vous retrouver avec plaisir. On peut vous retrouver sur Internet et suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie. Je vais y arriver. Pour une médecine intégrative et préventive, sur le site iempi.fr. Bien entendu, vos livres, j'en cite trois, Les clés de l'alimentation anti-cancer, qui est chez Terre Vivante, ou alors chez Pratt Édition, Soigner au naturel les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr, ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique. Et bien entendu, découvrir tous vos livres, Les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre Vivante, ou Soigner au naturel les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année, disponible aux éditions Pratt. N'hésitez pas aussi à écouter ou à réécouter la toute première série en 6 épisodes avec le docteur Charrier et tous ses excellents conseils. Voilà, tout cela, évidemment, ne remplaçant pas une consultation chez votre médecin. Merci.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose Éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.